puis je suis, comment on peut dire ça, je suis en train de faire un doctorat à l'Institut biblique de Rome sur Saint Paul, mais Saint Paul dans les Actes, et je vais me spécialiser à partir des années prochaines sur Saint Paul, que je devrais enseigner dans quelques années à l'Université catholique de Lyon. Par ailleurs, je suis parisien, ce qui a beaucoup d'avantages, mais aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que j'ai parfois la cadence parisienne du point de vue du rythme. C'est-à-dire que je n'ai plus de barbe, certains se rappellent que j'avais une barbe, mais je continue à parler dans ma barbe imaginaire. Donc, si vous sentez que ça va trop vite, que je suis en train d'avaler mes mots, n'hésitez pas à me faire un signe fraternel, ça sera utile pour l'ensemble de l'assemblée, pour les enregistrements divers et variés aussi, et peut-être pour la prise de notes. Et puis normalement, vous avez tous eu une feuille recto-verso sur laquelle il y a les textes que je vais affronter avec vous cet après-midi, sachant que c'est l'heure la plus dure, parce que c'est l'heure de la digestion. Donc si votre voisin ronfle, faites-le taire, mais ne le réveillez pas. Je vous ai mis aussi un plan de ce que je vais dire au tableau et que normalement je devrais suivre à peu près. Et on est parti pour environ une petite heure. Hommes et femmes, nécessaire altérité. Bon, ça c'est le thème du colloque. Mais alors, pourquoi faut-il demander l'avis de l'apôtre Paul? C'est quand même clair. Paul est un affreux misogyne, tout le monde le sait. Paul n'aime pas le mariage. Vous avez une citation là au début de votre page qui dit, en fait, le mariage... Il vaut mieux se marier que brûler, mais c'est faute de mieux, quoi. Le mariage, bon, c'est une concession à la concupiscence, comme on dira plus tard. Vraiment, franchement. Et puis, on a les citations qui font bondir, qui de droit juste après. Femme, soyez soumise à vos maris. Et puis, je ne permets pas à la femme de parler dans l'assemblée, ce qui a servi à des générations d'hommes à empêcher à beaucoup de femmes de parler d'une manière ou de l'autre, même dans l'assemblée familiale. Bon, c'est sûr que ça, c'est des expressions en tant que telles qui ne vont pas franchement dans le sens de la parité entre hommes et femmes à laquelle notre époque et nous-mêmes sommes attachés. Alors, Paul, on pourra dire, oui, s'il était vraiment, bon, il était intelligent pour la théologie pure, pour la christologie très bien, la sotériologie formidable, la justification, mais alors dans le champ de la morale sexuelle, alors là, il était complètement conditionné. Et il n'a pas pu réaliser complètement ce que la liberté chrétienne pouvait apporter. Alors s'il est tellement dépassé, s'il est misogyne, pourquoi s'adresser à lui? Ben, c'est que juste après, vous avez un premier texte dans Unité qui dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus masculin et féminin. » Il n'y a plus masculin et féminin. Car tous... Vous êtes un en Jésus-Christ. Alors là, c'est encore pire, parce que s'il n'y a plus masculin et féminin, l'altérité, on est un peu embêté pour parler de la nécessaire altérité. Là, il n'y a plus masculin et féminin. Donc, alors, est-ce qu'il est quelqu'un qui nie l'altérité des genres, ou bien est-ce qu'il se conforme à la mentalité de son époque, et donc il est prisonnier des catégories culturelles? Je me dis, ça vaut au moins la peine d'affronter le sujet en rencontrant Paul. En plus, ici... dans le centre Siloé, où il y a ensemble des soignants et des religieux qui coopèrent au service de la personne humaine, l'écoute de la tradition religieuse ne peut manquer. Alors c'est sûr qu'on l'a déjà fait un peu hier avec Genèse 1, 2, 3, pas tellement, on va voir aujourd'hui Genèse 3. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir au sein de cette tradition religieuse qui est la nôtre? Alors moi j'ai choisi, plutôt que de revisiter encore une fois Genèse 1 et 2, de toute façon, il faudra qu'on y revienne, hein, mais qui sont communs aux juifs et aux chrétiens, on l'a dit, il m'a semblé que c'était plus intéressant, plus pertinent, d'interroger quelqu'un qui soit postérieur à la mort du Christ. Quelqu'un qui soit postérieur à la mort et à la résurrection du Christ. C'est pour ça que j'ai pris Paul, qui est un juif chrétien, et un juif chrétien cultivé. Parce que, de tous les auteurs du Nouveau Testament, finalement, c'est quand même lui qui s'est le plus exprimé sur ce sujet-là, même si c'est quand même une partie minime des lettres de Paul. Le cœur de ce que raconte Paul, c'est la liberté que donne l'Évangile. L'important pour Paul, c'est d'annoncer que l'Évangile rend libre, et puis de voir que cette liberté d'Évangile ne soit pas gaspillée, gâchée. Après, ça va s'appliquer aussi en passant aux questions...